Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Message reçu avant-hier dans ma boîte mail. Bonjour, nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de Mon Super Voisin, nouvelle application d'entraide et de service entre particuliers fonctionnant sur un système de matching géolocalisé. Alors à ma place, vous auriez voulu en savoir plus. Eh bien, ouvrons la pièce jointe. On y apprend que Mon Super Voisin est un formidable créateur de liens sociaux, qu'il suffit de quelques minutes seulement pour trouver la personne susceptible de vous aider à déménager, à bricoler, à garder vos enfants, que ces services sont le plus souvent payants, mais qu'en cas de mission bénévole, vous avez la possibilité d'offrir à votre super voisin un cadeau à choisir parmi les marques partenaires de l'application. Alors, ce genre d'initiative n'est pas isolé, on ne compte plus aujourd'hui les plateformes de jobbing, autrement dit de services entre particuliers qui transforment ce qui relevait autrefois, semble-t-il, du coup de main en activité lucrative. Un phénomène qui ne se limite pas à la seule sphère individuelle. La Poste vient ainsi de généraliser un nouveau service, Veiller sur mes parents. Moyennant un abonnement forfaitaire, le facteur rend visite à votre vieux papa ou votre vieille maman et prend quelques minutes pour discuter avec lui ou avec elle, comme avant, sauf que désormais, c'est payant. Alors peut-on encore rendre service gratuitement ? Eh bien, c'est la question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de quatre invités. Charlotte Debray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la déléguée générale de la Fonda. La Fonda, c'est un laboratoire, c'est même le laboratoire d'idées du monde associatif. Pour discuter avec vous, Maud Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice adjointe de l'IDES Nanterre, IDES pour institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société. Vos recherches portent notamment sur le travail gratuit et le monde associatif. Troisième invité, Arthur De Graaf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de WeShare Magazine. WeShare, c'est un collectif dédié à l'émergence de la société collaborative. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présentait au début, c'est comme ça qu'il se présente toujours sur Internet, même si les choses ont quand même pas mal évolué depuis le début de WeShare. Et puis, dans un instant, nous serons en compagnie de Marie Trépas. Elle y est, me dit-on. Marie Trépas qui est au téléphone, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas tout à fait sûre de sa présence. Bonjour Marie Trépas.
Bonjour, je suis là.
Vous êtes la fondatrice du site Welp, plateforme de services gratuits entre particuliers. Nous allons avoir l'occasion d'évoquer ce service, mais je voudrais qu'on commence par celui qui vient d'être généralisé par La Poste.
Lui, c'est mon père. Et lui, c'est Julien. Il ne vient pas que pour le courrier. Il vient passer un peu de temps avec lui. Avec le service Veiller sur mes parents, c'est simple. On choisit 1, 2, 4 ou 6 passages par semaine. C'est une visite régulière et rassurante.
Voilà, extrait du petit film qu'on peut trouver sur le site de La Poste, service qui a été généralisé avant-hier. Ça coûte de 20 à 140 euros en fonction du nombre de visites du facteur. Et la famille est tenue au courant par le facteur, toujours, qui dispose d'une application pour le faire. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de ce nouveau service ? Et question subsidiaire, mais qui est totalement liée évidemment à la problématique du soir. Pourquoi finalement rendre payant un service qui, jusque-là, semble-t-il, était gratuit ? Maud Simonet.
Est-ce qu'il était complètement gratuit, en fait, ce service ? Ce service, il faisait partie, finalement, du travail, sans que ce soit forcément formalisé, mais du travail du postier, tel qu'il était conçu dans le statut qu'il avait auparavant. Donc, en fait, je ne suis pas complètement sûre que... On rend payant un service qui était gratuit, mais on transforme en fait la nature de ce service. Et là, ce que vous soulignez, c'est une forme de marchandisation en fait du travail du postier qui pose effectivement des questions et qui a été largement dénoncé par une partie des syndicats avec tous les enjeux que ça pose en termes de contrôle aussi, puisque si j'ai... Moi, je suis pas une spécialiste de ces questions, mais de ce que j'en ai vu, ça se fait sur un temps déterminé... c'est 6 minutes, pas plus. Il y a des enjeux en termes de formation qui se posent pour les postiers. Il risque d'y avoir une contrainte parce que c'est plus ou moins volontaire, mais si j'ai bien compris, ça peut à terme ne pas l'être. Enfin, voilà. Donc, je suis pas sûre qu'on soit complètement dans une, voilà. Ce qui change, c'est effectivement le statut de la Poste et la manière dont on va effectivement tirer profit de ce qui faisait partie du travail du postier et de son statut.
Peut-être que j'idéalise en fait ce qui était le travail du facteur autrefois, qui allait dans les villages, qui rendait visite aux grand-mères, qui prenait le temps de discuter, de boire un petit café ou un petit verre de vin, Arthur de Graaf. C'est-à-dire, est-ce qu'on a aussi peut-être ce phénomène-là, c'est-à-dire de considérer qu'avant, effectivement, on rendait service gratuitement sans réfléchir, et qu'aujourd'hui, du fait de cette nouvelle économie qui arrive, enfin qui est bien arrivée d'ailleurs maintenant, tout est commercialisé.
Alors c'est vrai qu'on peut être tenté d'avoir cette image d'Épinal, d'une société ancienne où il y avait de vraies solidarités, et aujourd'hui on aurait complètement perdu ce sens du lien social et on remplacerait tout par du marchand. Alors c'est un petit peu caricatural dans le sens où voilà, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on va arrêter de se servir, est-ce qu'on peut encore se rendre service gratuitement? L'a-t-on jamais fait? C'est la question que posait Maude. Finalement, à qui et selon quelle modalité on rendait service autrefois? En fait, il y a un nombre que j'aime bien, c'est le fameux nombre de Dunbar. 150. 150, en gros, c'est la taille naturelle du groupe social que forme l'Homo sapiens. C'est-à-dire que 150 personnes, je peux les connaître. Je peux connaître leur rapport, leur relation sociale mutuelle et compagnie. Donc j'ai une espèce de solidarité innée avec un groupe de personnes de cette taille-là.
Et celle-là, on ne la monétise pas?
Généralement, non. Sauf à avoir une famille un peu dysfonctionnelle. Par exemple, on doit la vie à ses parents. Généralement, c'est une dette qu'on ne repaye pas. Alors, vous savez, les anthropologues ont largement documenté ce phénomène qu'on appelle le don contre don. Et le lien social, d'une certaine façon, c'est rien que ça. C'est le résidu qui reste quand on a fait des dons, des deux contre dons. Quand on dit les bons comptes font les bons amis, rien n'est plus faux. En fait, un ami, c'est quelqu'un avec qui on n'équilibre jamais vraiment les comptes. Et donc, au-delà de cette limite, par contre, quand on va au-delà de cette limite des 150 personnes, pour commencer à interagir, coopérer les uns avec les autres, il faut recourir à d'autres choses. Alors, ces choses-là, c'est quoi? C'est par exemple ce que Yuval Hariri, dans Sapiens, appelle des fictions. Alors, des fictions, ça peut être plein de choses. Ça peut être des religions, ça peut être des nations. Il existe encore des solidarités nationales. Ça peut être la monnaie, le marché. Et finalement, le marché, aujourd'hui, est sans doute l'une de ces fictions, l'une de ces modalités imaginaires selon lesquelles on interagit avec le grand nombre. Mais voilà, c'est juste un mythe concurrent d'autres mythologies, c'est sans doute celui qui est dominant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dirais plus que le marché aujourd'hui, il se substitue pas à des solidarités traditionnelles et en fait qui ont disparu depuis qu'on a arrêté de vivre en tribu et depuis qu'on a formé des sociétés de plus en plus complexes. Par contre, il domine clairement, il s'est substitué à d'autres mécanismes de solidarité, de création de liens sociaux qui étaient les nations, les religions, tout ce que vous voulez.
Vous évoquiez Yuval Hariri, voilà, son livre Un Sapiens qui raconte l'histoire de l'humanité, mais effectivement à travers un certain nombre de fictions qui sont racontées pour expliquer que, par exemple, les sociétés ne sont pas des choses qui sont totalement, même pas du tout innées, mais voilà, qui sont des récits qui sont racontés. Du point de vue qui est le vôtre, c'est-à-dire d'un laboratoire d'idées du monde associatif, la Fonda, Charlotte Debray, est-ce que vous partagez les premières analyses qui sont faites sur finalement l'idée à la fois que rendre service gratuitement, ça n'a peut-être jamais totalement existé, en tout cas de manière absolument généralisée, et que les phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui ne sont peut-être pas en rupture radicale comme j'ai pu le laisser entendre en début d'émission?
Non, je partage pas tout à fait l'analyse selon laquelle, enfin en tout cas le modèle marchand domine, parce qu'il y a encore des formes d'entraide très vivaces en France et elles se manifestent notamment par le bénévolat. On estime entre 12 et 16 millions de bénévoles en France, pour peu qu'on soit capable de les mesurer. La sphère immédiate, la sphère naturelle dans laquelle on rend service gratuitement, c'est la famille, c'est le voisinage, et les solidarités de voisinage, elles existent toujours. Elles se traduisent par des fêtes de voisins, par des opérations d'embellissement de mon quartier, on plante des fleurs, ça c'est gratuit, c'est même le street art d'une certaine manière, c'est une forme d'embellissement gratuit. Le bénévolat, c'est énorme en France, il y a même, bon, Wisher le sait mieux que moi, mais des millions de personnes qui contribuent à la constitution de commun de la connaissance. Wikipédia en est l'archétype même.
Mais vous ne constatez pas justement peut-être un fléchissement de ce bénévolat sous la pression de ces nouvelles formes de services d'entraide qui sont des services contractualisés et commercialisés?
Non, le bénévolat, les tendances sont plutôt à la progression du bénévolat. C'est sûr qu'il se transforme, c'est moins un engagement de l'ordre du sacrificiel où on militait pour une cause sans forcément attendre de contrepartie et encore encore. Je crois qu'il y a, il y a aucun engagement qui n'est en soi sa propre contrepartie. Cette contrepartie, elle est à la fois de comprendre et de mesurer qu'on a un effet de levier sur les choses. Donc ça, c'est vraiment un facteur essentiel, un ressort essentiel de l'engagement bénévole. C'est de voir qu'on a prise sur les choses et qu'on arrive à changer un peu les choses. Et deuxième facteur, à mon sens, il est aussi de se sentir utile, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance. Et symboliquement, un simple merci, c'est déjà beaucoup. Mais ça peut être une reconnaissance symbolique, institutionnelle, des droits, etc. Donc non, le bénévolat ne fléchit pas, il se porte bien, mais il se transforme.
Mme Simonet, est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes formes, finalement, de façons de rendre service, des façons qui sont strictement commerciales, d'autres qui sont de l'ordre du bénévolat, et puis ces formes un petit peu hybrides qu'on voit apparaître sur les plateformes de jobbing, je disais, c'est-à-dire ces services qu'on rend particuliers parce que c'est moins cher et puis parce que ça permet aussi d'arrondir les fins de mois. Est-ce que ces différentes formes-là sont davantage complémentaires que finalement en concurrence?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a aujourd'hui une démultiplication des manières de rendre service et des statuts dans lesquels on rend service. Et je crois que c'est ça un peu le mouvement de fond, et que si on trouve des formes de marchandisation comme vous l'évoquiez, on trouve aussi, on pourrait presque renverser la question finalement que vous posiez, peut-on encore être payé pour faire certaines tâches qui relèvent du service finalement, puisqu'on a aussi dans un contexte de diminution des services publics, enfin de l'argent qui est dans un contexte de chômage aussi important, on a aussi une incitation à travailler gratuitement aussi, on a des formes de bénévolat qui parfois viennent se substituer à des recherches d'emploi, etc. Donc on pourrait aussi regarder la question de l'autre côté en pointant plutôt une forme de gratuitisation ou de bénévolisation du travail aujourd'hui, de plein d'aspects. Moi, j'ai fait une enquête avec un collègue américain, John Krinsky, alors sur les parcs à New York, où on a montré comment, alors que pendant longtemps, il y avait le fonctionnaire municipal protégé à statut qui nettoyait les parcs, aujourd'hui, on a vu arriver à côté des salariés associatifs, des milliers de bénévoles aussi qui sont suscités par la municipalité et des fondations, des gens qui sont allocataires de l'aide sociale à qui on demande de faire ses heures de travail gratuit, sinon ils touchent plus leurs allocations. Donc on se retrouve finalement avec une activité qui peut être effectivement planter des plantes, nettoyer un parc, etc., qui est fait par une multiplicité de statuts de travailleurs, certains payés, certains ne le sont pas, mais on pourrait retrouver ça aussi si on regarde aujourd'hui dans les écoles françaises au moment de l'ARE, des activités qui ont été mises en place avec la réforme des rythmes scolaires. Vous ouvrez une porte, vous avez un bénévole. Vous ouvrez une autre porte, vous avez un animateur vacataire. Un autre, c'est un animateur statutaire. Et puis un autre, c'est un service civique. Donc je crois que c'est ça, en fait. On a des mouvements qui sont complexes. Et sans doute, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que sur le même petit acte, la même mission, on va avoir des statuts différents.
Et la preuve avec justement le site Welp, puisque nous sommes en ligne avec sa fondatrice Marie Trépose, avec qui on ne pourra pas faire toute l'émission, parce que voilà, comme vous êtes au téléphone, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je voudrais quand même que vous nous expliquiez ce que c'est que ce site, plateforme de services gratuits en particulier. Et dans le petit film qu'on peut là aussi voir sur le site de Welp, vous insistez beaucoup et sur la gratuité et sur l'absence de contrepartie. Pourquoi d'abord avoir fait ce choix de la gratuité dans un domaine qui aujourd'hui est plutôt celui de services entre particuliers qui sont monétisés? Et pourquoi insister sur l'absence de contrepartie?
Justement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de sites déjà de ce qu'on appelle du jobbing, c'est-à-dire des petits jobs rémunérés. Il y a tout à fait vocation à en avoir. Maintenant, moi, je voulais aller au bout de la logique, finalement, du bénévolat et surtout proposer un site qui révolutionne un peu les codes de l'entraide et du bénévolat. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas, qui ne passent pas à l'acte, même si on a dit qu'il y en avait entre 16 et 19 millions. Et beaucoup ne passent pas à l'acte parce qu'ils vont dire « j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'engager dans la durée, dans une association, j'ai pas non plus, je sais pas comment agir, je sais pas quoi faire ». Et Welp, c'était justement toute l'idée de mettre en lien d'un côté des personnes qui ont un peu de temps de temps en temps et de l'autre des personnes qui ont des besoins. Donc c'était vraiment de se dire allons au bout de cette logique de gratuité, de non-contrepartie, et on se rend des services dans tous les domaines. Ça peut être aller rendre visite à une personne âgée, dépanner un parent, garder le chien de quelqu'un, faire un peu de bricolage. Donc c'est du petit service, c'est du petit coup de main pour tuer les gratuits, si si je devais résumer.
Est-ce qu'il y avait aussi l'idée, Marie Trépose, de proposer cette offre en réaction à une commercialisation de l'entraide qu'on peut trouver sur d'autres plateformes? J'évoquais au tout début d'émission celle pour laquelle j'ai reçu un mail, là, Mon Super Voisin, mais enfin, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais est-ce que l'idée, c'était de dire, on peut aussi faire du gratuit dans ce domaine?
Bien sûr, oui, un petit peu, parce que c'est vrai que moi, quand je vois des plateformes que je ne vais pas nommer, mais qui sont en fait des plateformes de jobbing, mais qui en termes de discours marketing vont dire que c'est de l'entraide entre voisins, moi, je ne trouve pas que quand on se fait payer, c'est pas de l'entraide. C'est un jobbing, c'est un petit job. Et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses pour les autres. Pas dans une logique justement payante, mais qui aujourd'hui ne passent pas à l'acte parce qu'ils ne savent pas quoi faire, et surtout s'engager dans du bénévolat associatif, c'est pas forcément simple. Alors qu'on a plein de voisins qui sont soit des personnes âgées en situation d'isolement, voisins qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un cours particulier à 20 euros de l'heure, et 99% des Français ne peuvent pas se payer ça. 10 euros un babysitting aussi, c'est cher. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment essayer de réconcilier ces deux populations, si je puis dire. Ceux qui veulent donner un peu de temps de temps en temps, peut-être chez eux, et ceux qui ont besoin de ce petit coup de main, ce petit coup de pouce supplémentaire.
Alors si vous le pouvez, Marie Trépose, on va encore vous garder quelques minutes pour discuter encore un petit peu avec vous, mais je voudrais faire réagir nos invités. Une phrase que vous avez dite, se faire payer, c'est pas de l'entraide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Arthur de Grave?
C'est vrai qu'a priori, quand on est dans une logique de transaction, ça paraît rentrer en conflit avec l'idée même d'entraide, avec l'idée de solidarité, évidemment. Le problème, c'est que, et je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, du côté de la Fonda, c'est-à-dire que, effectivement, il y a toujours du bénévolat. Par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est que chez les populations urbaines, quand on vit dans une grande métropole, généralement, c'est un voisin. Les rapports de voisinage ne constituent pas des liens sociaux très forts. C'est-à-dire que je ne me sens pas en tant que... Moi, j'habite dans le 10e arrondissement, je connais 2-3 voisins, mais globalement, on est quand même dans des sociétés qui sont assez atomisées, on est majoritairement urbain, et donc nos liens sociaux au niveau géographique sont quand même assez distendus. Donc, la plupart du temps, comment on résout ça quand on n'a pas envie de réfléchir?
Je
ne
sais pas si l'entraide à la campagne est beaucoup plus développée. Enfin, les relations de voisinage
sont trop
proches.
Parce que les groupes sociaux sont
parfois tendus.
Ça peut être terrible, les relations sociales dans un village, c'est quelque chose. Mais globalement, quelle raison j'ai d'aider quelqu'un que je ne connais pas? Alors, la réponse bête et méchante, c'est en mettant un prix à la transaction et en faisant en sorte qu'on s'entraide comme ça. Des sites qui ont tenté, justement, d'investir la relation de voisinage et de générer du service entre des gens qui se connaissent pas et qui se doivent rien a priori. J'en ai vu passer pas mal. C'est une vraie question. C'est très compliqué de réussir à susciter de l'entraide. Alors quand on n'est pas dans des populations bénévoles militantes, c'est-à-dire que c'est pas un acte militant. On n'a pas une cause commune. Comme quand on s'engage pour Greenpeace, par exemple, là, il y a une cause commune et donc on sait pourquoi on contribue, on sait pourquoi on est bénévole. S'entraider entre voisins quand on se connaît pas, c'est un truc qui est plus compliqué. Donc l'alchimie, elle est difficile à trouver. Et ça, c'est le boulot que font les plateformes. Effectivement, les plateformes de l'économie collaborative, qu'elles soient payantes ou gratuites, sont créent des environnements en ligne qui permettent de générer, de susciter de l'interaction, de la coopération, comme si on était copains, alors qu'on n'est pas copains en vrai.
Charlotte Debray. Sur cette même question. J'avais une autre question alors à vous poser pour pas trop vous déstabiliser. Ce qu'évoquait Marie Trépose il y a un instant, c'était aussi le fait que les bénévoles qui se retrouvent sur le site web sont aussi des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, qui viennent là parce qu'il y a une forme de souplesse qui leur est offerte. Ouais. Est-ce que ça interroge aussi le monde associatif, c'est-à-dire le développement de ces plateformes de services entre particuliers? Cette souplesse-là, est-ce que du coup, ça impose au monde associatif de revoir un petit peu ces modes de fonctionnement, ou bien est-ce qu'au contraire, il y a une forme de résistance du monde associatif en se disant, nous, notre façon d'agir, elle est comme ça, et il faut bien qu'on continue à le faire de la manière dont on le fait depuis toujours?
Il y a une partie du monde associatif qui a déjà bien compris qu'on ne peut plus que fonctionner de la même manière et qu'il faut tenir compte à la fois des contraintes et des attentes des individus d'aujourd'hui qui n'ont pas la même disponibilité quand ils sont jeunes et en début de carrière que quand ils sont en fin de carrière et qu'ils sont à la retraite, par exemple, ne serait-ce que dans leur trajectoire de vie. Quand on est à la retraite, on a un petit peu plus de disponibilité et avec l'espérance de vie qui s'allonge, on a même 20 à 30 ans d'espérance de vie en bonne santé après la fin de sa carrière et qu'on n'a pas forcément envie de laisser dépérir tout ça. Donc ils sont une partie du monde associatif qui, ça vient progressivement, mais qui a complètement compris ça et propose du bénévolat beaucoup plus sur du projet, de l'action, inscrite dans la durée et des parcours d'engagement qui vont aller progressivement vers de l'engagement pérenne, s'impliquer dans les instances de gouvernance, suivre la gestion du quotidien, etc. Donc ça, ça commence à rentrer dans la culture associative.
Mais de quoi est-ce que ça ne dénature pas aussi un petit peu cette culture justement associative et la culture du bénévolat, c'est-à-dire en essayant peut-être d'appliquer aussi des règles qui viennent quand même d'une approche plus commercial, même si je sais que vous avez dit quand on a préparé l'émission, ça c'est une phrase qui m'a frappé, que l'économie collaborative, puisque c'est de celle-ci dont on parle en fait ce soir, c'est une pollinisation de l'économie de marché par les logiques associatives. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse finalement? Est-ce que c'est pas ce sont pas les associations qui sont pollinisées par les logiques de l'économie de marché?
On pense à la Fonda qu'en fait le réflexe de s'associer, le réflexe de mettre en commun du temps et des compétences est en train de polliniser le monde marchand en fait, et que finalement l'individu, le bénévole, c'est le même que le salarié dans une entreprise. Et en fait la tendance, elle n'est pas propre, la transformation de l'engagement, elle n'est pas propre au monde associatif, elle est propre au repositionnement de l'individu au cœur du collectif, qui doit articuler des trajectoires personnelles et des attentes personnelles aussi en termes de reconnaissance, en termes de, je sais pas, mise en réseau, capacité à travailler en équipe, prise en charge de responsabilité, etc. Et puis un projet collectif. Donc c'est cette notre théorie, c'est que le fait associatif, le réflexe de mettre en commun, est en train de gagner le monde d'autres sphères, y compris le monde marchand. D'ailleurs, l'économie collaborative repose, a compris le potentiel coopératif des gens et l'exploite. C'est le modèle coopératif à la sauce Uber. Ce qui dysfonctionne, c'est le fait qu'il capte la valeur créée et que ne la réinjecte pas dans le pot commun. Mais sinon, c'est joli, l'économie collaborative.
Vous êtes d'accord avec ça, moi, Simonet? C'est le monde associatif qui influence l'économie de marché, pour utiliser des termes un petit peu rapides, davantage que l'inverse?
Moi, j'ai du mal à penser ces sphères-là comme étant complètement autonomes, de toute façon. Donc, je pense qu'elles sont profondément... qu'il y a une interpénétration, de même que ce que j'essayais de soulever, puisqu'on est parti de la Poste quand même, donc on est parti d'un service public, je pense qu'il y a aussi une interpénétration très forte avec l'État, les services publics, et que c'est difficile de sortir ces questions-là de ces différentes sphères. De même que le bénévole dans l'absolu, pour moi c'est un statut, mais ça ne veut pas dire grand-chose si c'est derrière un jeune qui cherche à s'insérer professionnellement dans un métier. Ou parce que là, on a quand même fonctionné un peu comme si rendre service ou cette idée de service. Alors rendre service peut-être, mais l'idée de service, elle est au cœur de toute une partie des métiers de la fonction publique, du secteur social, du secteur sanitaire, de l'éducation. Donc c'est ça que j'essayais de dire aussi, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut aussi comme ça séparer de la rémunération, parce que la rémunération, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire le gratuit, ça polarise, mais attention, c'est très bien aussi qu'on ait construit des professions dans le secteur social, éducatif et sanitaire, des métiers, qu'on les ait construits à partir de choses qui étaient faites gratuitement avant, qui étaient essentiellement faites par les femmes d'ailleurs. Donc c'est aussi quand même une bonne chose quand le care est devenu le problème, c'est souvent les conditions dans lesquelles on a construit ces métiers et le fait qu'on ne les a pas complètement reconnus, pas complètement valorisés. Donc je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on oppose souvent ces choses-là, et que je pense qu'on est face aujourd'hui à des phénomènes assez complexes d'interpénétration en fait de ces différentes sphères, où on va retrouver la mobilisation du bénévolat dans des endroits où on va construire du profit, la mobilisation du bénévolat dans les services publics alors qu'il y a des enjeux de substitution avec la fonction publique aussi, la manière dont effectivement des économies qui fonctionnent plutôt sur le marché vont investir aussi. Voilà, je pense que les choses sont, on est plutôt dans un mélange des genres qui est compliqué qui rend compliqué la pensée par opposition ou par dichotomie.
Ce mélange des genres, vous le constatez aussi parmi les, je crois qu'ils sont 23 000 ou 24 000 bénévoles sur la plateforme WELP, Marie Trépos. Cette complexité-là, elle apparaît aussi dans les démarches et dans les aspirations de ceux qui proposent leurs services gratuitement, là en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Et pour revenir sur ce qu'on vient de dire juste avant, je ferai aussi, moi, un peu la différence entre l'économie, enfin, au sein de l'économie collaborative, il y a ce que j'appelle l'économie du partage ou l'économie du don. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, on met un peu tout dans le même panier, mais sincèrement, entre un Uber ou comme le disait madame, il y a quand même une captation du profit, j'allais dire au profit donc des dirigeants de l'entreprise et des actionnaires, et un projet comme Welp ou d'autres, hein. Welp, au passage, est d'ailleurs une entreprise à l'agrément ESUS, donc officiellement une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc moi, j'ai pas de profit en fait sur Welp. Donc c'est extrêmement différent, et je trouve que malheureusement, on fait vraiment un gros amalgame entre au sein de cette économie collaborative. Maintenant, sur Welp, oui, on a les gens qui viennent sur la plateforme, donc les 25 000 Welpers, comme on les appelle, viennent tous pour des raisons, en fait, très différentes, hein, on se rend compte. Et il n'y a pas de règles, en fait. Il y en a qui viennent vraiment parce qu'ils sont dans cette envie de donner quelque chose, donner du temps, et encore une fois, vouloir le donner quand ils peuvent, quand ils veulent. On a aussi beaucoup d'associations qui utilisent Welp, et ça, c'est intéressant parce que vous parliez aussi d'interprénétration. Là, c'est un petit peu le cas là, puisqu'on a presque un tiers des annonces sur Welp qui sont en fait des annonces d'associations et qui vont utiliser ma plateforme parce qu'en fait, ils me disent on arrive grâce à trouver des bénévoles différents, des bénévoles qui viennent naturellement sur notre plateforme en propre. Parce que moi, je vais les attirer, si je peux dire, par le côté application smartphone, vous voyez, donc un outil pratique, un site internet très ludique. Et l'idée de se dire finalement que sur Welp, on peut aider très facilement près de chez soi, dans la réalité, j'ai beaucoup de gens qui vont aller aider des associations grâce à Welp. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je suis pas du tout d'association. Au contraire, j'essaie de les aider à trouver des bénévoles plus jeunes qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont recruter de façon traditionnelle, en fait.
Ça veut peut-être dire aussi que le bénévolat aujourd'hui n'est pas suffisamment valorisé dans la société française, même si vous nous le disiez, hein, Charlotte Debray, 12 à 16 millions de bénévoles, c'est énorme, mais est-ce que ça mériterait d'être encouragé encore davantage et peut-être d'ailleurs être encouragé avec des contreparties qui sont pas forcément des contreparties financières, parce que sinon c'est plus du bénévolat, mais enfin en tout cas une autre façon de récompenser ceux qui sont dans un engagement bénévole.
La première chose qui me semblerait important, c'est de mieux mesurer, de mieux connaître ce bénévolat. Il n'y a pas de statistiques publiques récentes. La dernière enquête sérieuse de l'INSEE sur le bénévolat date de 2002. Donc les fourchettes 12 à 18 millions de bénévoles, c'est un petit peu insatisfaisant. Donc déjà, ça ce serait une première chose. Ce serait d'ailleurs, on s'y emploie à la Fonda, mais du coup avec des fonds privés et nos petits bras. Mais je pense que ça devrait être quand même un petit peu mieux connu, chiffré, et du coup, on pourrait vraiment mesurer sur le temps long les évolutions du bénévolat, la fréquence, l'intensité du bénévolat, les secteurs qui attirent, et est-ce qu'effectivement, tous les collectifs informels ou les plateformes qui proposent du bénévolat de manière beaucoup plus directe sont en train de prendre le dessus sur la forme associative un peu traditionnelle. Ça, on manque d'éléments scientifiquement solides pour pouvoir... pouvoir le dire.
Avec peut-être aussi d'ailleurs le risque pour certaines associations de se retrouver à gérer ce qui n'est pas pris en charge par ces nouvelles plateformes et de gérer vraiment la je sais pas si on peut parler d'extrême précarité, mais enfin en tout cas ce dont les autres ne veulent pas prendre en charge, que les autres ne veulent pas prendre en charge.
Il y a ce risque là et puis c'est vrai que c'est parfois faire du bénévolat à la fois c'est très enrichissant mais ça demande une disponibilité y compris intellectuelle et quand on doit réfléchir à où se loger, comment se soigner et comment se nourrir, c'est compliqué. Et c'est qu'on encourage beaucoup le service civique. La contrepartie, pour le coup, elle est symbolique. Et l'indemnité, elle sert justement à assurer le socle de base qui va permettre à un jeune de décider de consacrer, de rendre service gratuitement, mais avec une reconnaissance, une indemnité, à la collectivité, sur des projets d'intérêt général. Les besoins manquent pas. Et l'histoire des seniors et de leur isolement, par exemple, c'est un véritable enjeu de société. Donc l'idée de la Poste, elle n'est pas mauvaise si il y a de vrais besoins, en tout cas en termes de lutte contre l'isolement des seniors.
Bon, finalement, Arthur de Graaf, plus on avance dans la discussion, plus on se rend compte que, au départ, dans ma présentation, j'avais finalement scindé le monde en deux catégories, c'est-à-dire d'un côté les gentils qui sont dans le gratuit, qui sont dans le bénévolat, et puis peut-être les méchants qui profitent de choses qui étaient gratuites ou supposément gratuites autrefois, et puis qui s'en servent pour gagner un petit peu d'argent. Et plus on avance dans la discussion, plus on se rend compte que tout ça est extrêmement complexe et interdépendant, comme nous le disait Maud Simonet.
Oui, tout cela se nuance de plus en plus. On a beaucoup dit depuis tout à l'heure, effectivement, que les sphères marchandes et non marchandes s'interpénétraient de plus en plus. Alors, je ne sais pas qui rejaillit davantage sur l'autre. J'ai l'impression que c'est les deux. Mmh. En fait, j'ai bien aimé le mot qu'a employé Charlotte tout à l'heure pour parler de bénévolat. Vous avez utilisé l'adjectif sacrificiel. Mmh. Et en fait, avant, il y avait un petit peu de ça. C'est-à-dire, on avait d'un côté l'activité rémunérée, théoriquement à sa juste valeur. Pardon, Karl Marx.
Je m'excuse. Il vous pardonnera.
J'espère qu'il me pardonnera
si
depuis sa tombe sur la survaleur et compagnie. Mais en gros, on gagnait de l'argent sur son activité rémunérée. Et à côté, on était bénévole. C'était une forme d'engagement à la rigueur. C'est même ce qui a guidé le développement du secteur non-profit aux États-Unis. Vous savez que pour un puritain au XVIIIe siècle, il y a une compatibilité entre l'esprit du protestantisme et le capitalisme. Mais d'un autre côté, il fallait compenser un peu pour le salut de son âme. Et donc surtout ne pas gagner d'argent sur certaines activités. Donc c'est ce qui a guidé en fait le développement du secteur associatif, du bénévolat. Il y avait cette idée d'engagement profond. Et effectivement, avec cette interpénétration croissante, on a d'un côté un nuancier de plus en plus complexe du côté du bénévolat, mais aussi du côté du travail, comme le disait Maud tout à l'heure. Effectivement, on a de plus en plus d'activités qui, même de travail qui n'est plus salarié. Et fondamentalement, l'économie collaborative, l'économie de plateforme, qu'on soit sur du bénévolat ou sur de l'activité rémunérée, est une économie qui repose massivement sur du travail qui n'est pas salarié, sous quelque forme que ce soit. Et ça pose d'énormes questions en termes de répartition de la valeur, d'équilibre de force entre le capital et le travail. Mais alors là, on arrive encore sur un autre sujet. Mais fondamentalement, oui, le bénévole mute et le travailleur mute aussi. Et donc, je ne sais pas trop où ça se retrouve. Et c'est ce qu'on est en train de bricoler dans les différentes plateformes, à droite, à gauche. Et toutes les plateformes, en fait, dont Welp, sont des espèces de territoires d'expérimentation où on crée ces hybrides. Alors parfois, ça peut être monstrueux, parfois, ça peut être joli. Il y a un peu de tout.
Et c'est une économie collaborative au sein de laquelle ce débat-là existe
encore
aujourd'hui ?
Oui, il est très très vivace, ce débat sur la répartition de la valeur. Il y a tout un courant qui s'est développé aux États-Unis qu'on appelle le coopérativisme de plateforme, qui prône justement une forme de convergence entre l'économie coopérative et l'économie de plateforme, ou collaborative, si vous voulez l'appeler comme ça, pour éviter ces phénomènes de captation de valeur massive. Alors, je serais plus nuancé sur la possibilité de faire converger aussi facilement ces activités, parce que je pense qu'il y a une forme d'irréductibilité. Par contre, je pense que par exemple, l'engagement associatif militant était un engagement, justement. Ce qui fait la force des plateformes, c'est qu'on rentre et qu'on sort un petit peu comme ça, un petit peu comme on veut. Et donc, elles sont fondées sur une logique de fluidité. Donc, c'est pour ça qu'a priori, on ne peut pas donner la réponse de la compatibilité entre l'approche associative, bénévole et l'approche collaborative. Il faut expérimenter, il faut mettre les mains dans le cambouis et créer des plateformes pour voir si tout cela tient ou si tout s'effondre.
Maud Simonet ?
Oui, je pense qu'il y a, voilà, ce qu'on peut, on parlait de la question sacrificielle, là, vous avez évoqué tous les deux ce terme-là et vous évoquiez le service civique tout à l'heure. Alors oui, le service civique, c'est 500 et quelques euros, donc, mais complètement donc en dehors du droit du travail. Donc on est dans l'idée, avec au moins 25 heures par semaine, parfois plus. Et du coup, moi, j'ai fait une enquête sur la première mouture, qui était donc le volontariat civil, hein. On se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'une partie des jeunes, puisqu'il y a un objectif de mixité sociale, une partie des jeunes qui sont plutôt des classes moyennes ou classes moyennes ou supérieures, qui sont soutenues par leurs parents, qui vivent chez leurs parents, bah, quand ils vous parlent de ces 500 euros, ils vous disent l'argent de poche. Et puis quand vous allez voir les jeunes qui vivent en foyer, qui peuvent pas être soutenus par leurs parents, qui sont plutôt issus des classes populaires, ils vous disent la paye avec ces 500 euros. Donc ça pose aussi ces questions-là, c'est-à-dire que au-delà du statut en tant que tel, c'est dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Je reviens un peu là-dessus, mais on peut pas parler. Enfin bon, je suis sociologue, donc forcément, je pense qu'on peut pas parler de ces questions-là indépendamment aussi du contexte et de la des transformations du travail aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois de l'importance du chômage et notamment du taux de chômage des jeunes, de la la manière dont fonctionne la logique du marché du travail, et puis aussi, comme je disais, des dépenses publiques et des politiques de travail dans les services publics. Et aujourd'hui, on a par exemple des services civiques qui vont travailler donc dans les services publics, puisqu'il y a l'idée puisque moi je suis pas d'accord avec vous, je pense qu'on est dans une grande période de survalorisation de l'engagement citoyen. Ces dernières années, il y a eu énormément de discours, de soutien de la part politique, c'était peut-être pas le cas quand j'ai commencé à travailler sur ces questions il y a 20 ans ou 25 ans, on disait ah là là, c'est valorisé en Amérique, mais chez nous, personne n'est bénévole, personne ne s'intéresse aux associations, etc. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Et ces formes de contrepartie que vous évoquiez, elles existent déjà. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder le compte personnel d'activité, il y a la possibilité
De valoriser les compétences.
Voilà, de valoriser les compétences. Il y a la validation des acquis de l'expérience, il y a le passeport bénévole, il y a eu énormément de politiques. Il y a 15 ans, on interdisait à un chômeur de faire du bénévolat. Aujourd'hui, on est en train de pousser les allocataires du RSA à en faire. Donc, on est dans une logique de valorisation de l'engagement, finalement, cette idée que, voilà, finalement, si on est un vrai citoyen, il faut être engagé, il faut participer au fonctionnement de la société, même si c'est gratuitement. Et je pense
que j'entends du coup dans votre discours, Maud Simonet, c'est que finalement, l'inquiétude, elle serait peut-être plus à avoir sur une forme d'extension du domaine de la gratuité.
Exactement.
Que sur l'extension du domaine du payant.
Je vous l'ai dit, j'ai retourné la question, c'est un des enjeux pour moi qu'on doit poser, mais les deux d'ailleurs sont à penser ensemble.
Le pire, c'est que les deux, en fait, arrivent en parallèle.
Exactement. Je pense qu'il faut penser les deux ensemble.
Mais alors justement, par rapport à ce phénomène-là, les associations, est-ce qu'elles sont sous la pression peut-être de politiques publiques qui tendent justement à renvoyer vers le bénévolat des formes d'action qui autrefois étaient prises en charge sous forme de salaire? Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que les associations aussi ont les moyens, la capacité de refuser d'assumer de telles tâches dans un contexte budgétaire évidemment entendu où les associations sont aussi dépendantes de subventions publiques.
Pas uniquement.
Charlotte Debray. Pas seulement, bien sûr.
Pas uniquement, il faut minorer la place des subventions publiques dans le budget consolidé des associations. C'est à peine 40%, donc 49%.
C'est pas si mal.
C'est pas si mal. Mais c'est pas uniquement, c'est pas leur ressource essentielle, quoi. Leur ressource essentielle, c'est le bénévolat. Le risque qu'on laisse, du coup, aux associations la part non solvable des marchés, en particulier sur celui du vieillissement démographique, c'est l'exemple. Exemple parfait, la structuration de la filière Silver Eco menace de ne pas rencontrer d'abord sa demande parce que c'est trop techno et que c'est pas forcément hyper ça part pas forcément des besoins exprimés par les seniors eux-mêmes, mais en plus ça risque de pas rencontrer sa demande parce que c'est pas accessible à tous et du coup resterait aux associations de services à domicile qui historiquement faisaient ce travail de lien social etc. la partie insolvable du marché et c'est peut-être pas une bonne idée que de laisser uniquement des bénévoles prendre en charge le lien social et puis tout ce qui est rentable laisser des acteurs marchands s'en occuper.
Donc pour répondre finalement à la question, puisqu'il nous reste à peine deux minutes, peut-on encore rendre service gratuitement? Comment est-ce que vous concluriez? Comment est-ce que vous, au bout de presque 40 minutes de discussion, comment est-ce que vous répondriez à cette question, Arthur de Grave?
Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Normalement, on rend toujours service gratuitement à ses amis, à ses parents, à sa famille. Ça ne bougera jamais. C'est à la limite une donnée biologique. Et ensuite, effectivement, il y a des choses qui se... C'est la taille du néocortex chez Dunbar. Ensuite, il y a effectivement des transformations qui font que les équilibres entre le travail rémunéré et le bénévolat ont tendance à être un petit peu remis en question, effectivement. Et donc, il y a, oui, une forme de marchandisation de la sphère privée aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qui d'ailleurs empiète sur le territoire du travail qui était traditionnellement rémunéré. C'est pour ça qu'en fait la gratuitisation et la marchandisation sont en fait les deux côtés d'une même pièce d'un certain point de vue. Donc la question c'est effectivement comment quelle société on recrée sur cette base-là, quoi. Comment on réussit à recréer du lien, comment on réussit à stabiliser quelque chose, à recréer un contrat social pour cet état de fait. Parce que la marchandisation, c'est aussi la marchandisation de votre attention via les sites web que vous y visitez, via le digital labor, le travail du consommateur. Il y a tout un ensemble de concepts qui permettent d'expliquer que cette marchandisation, franchement, Uber, Uber, Airbnb et consorts, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg.
Charlotte Debray.
Oui, moi je pense qu'on peut conjuguer gratuité et offre de services marchands, mais ça implique de se doter un peu de vision stratégique, d'objectifs communs, d'une éthique, de règles et de processus de travail collectif. Je pense que par exemple, la proposition de la Poste peut très très bien s'articuler avec, se chaîner avec tout le dispositif de soutien à la personne âgée, mais ça implique quand même de se poser autour d'une table et de construire ce qu'on appelle à la Fonda des communautés d'action.
Et c'est à Maud Simonet que revient le dernier mot. Et quand je dis le dernier mot, c'est presque ça. Hein.
Non, je voulais juste revenir sur la donnée
quelques
biologique.
Quelques petites secondes,
j'ai vu vous rallier.
J'ai réalisé, parce que si on regarde ça du point de vue du travail domestique qui prend et du travail familial qui prend quand même une partie de ce rendre service qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est pas biologique, c'est social,
non.
Et c'est beaucoup les femmes qui s'en sont chargées. Donc je pense que c'est un des enjeux aussi de ce dont on parle.
C'est la fin.
Non,
c'est la fin, Maud Simonet. Vraiment très vite.
Oui, mais jusqu'où? Voilà la réponse à votre question. Peut-on rendre service gratuitement? Oui, mais jusqu'où?
Ah
voilà.
Bah c'est pas mal. Et ben je vous remercie en tout cas tous les quatre, puisque
merci.
Marie Trépos, qui n'était plus en ligne avec nous, était aussi parmi nous. Merci Maud Simonet, Arthur Degrave, Charlotte Debray, des invités qui viennent tous les soirs gratuitement. Ça, je dois le dire. Et du coup, voilà, qui rendent un service à la communauté. Enfin, en tout cas, on espère que cette émission rend service à travers voilà les réflexions comme celle de ce soir que vous pouvez écouter sur notre site franceculture.fr à la page du Gramout, que vous pouvez également télécharger. Tiens, le podcast, par exemple, ça aussi, c'est un service qui est rendu gratuitement, même si, paraît-il, ça coûte de plus en plus cher à Radio France. Plus on est podcasté, plus Radio France doit payer. Mais ça reste gratuit pour l'instant, même si il y a des petites expérimentations de publicité. Merci à l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Marine Becker, Élise Holtzicker, Louise Fuseau. Ici, on est réalisé par Lise-Marie Barré, avec la prise de son ce soir Anthony Thomasson. Demain, direction le Venezuela, que reste-t-il du chavisme? Ce sera notre sujet.